Xavier Harel, bonjour.
Bonjour.
Alors dans cette BD, dans cette bande dessinée, vous racontez de façon très fluide l'affaire des biens mal acquis qui implique depuis plusieurs années des pays pétroliers du Golfe de Guinée comme la Guinée équatoriale, le Gabon, le Congo-Brazzaville. En 2009 sortent en France des articles de presse disant que ces ONG sont les faux nés d'intérêts anglo-saxons qui veulent évincer la France du Golfe de Guinée. Est-ce qu'il n'y a pas un fond de vérité?
Alors oui, ça a été beaucoup écrit pour essayer de décrédibiliser Sherpa, Transparency International ou même le CCFD. Moi, j'ai beau creuser, je n'ai jamais trouvé quoi que ce soit de véritablement convaincant, même lors du procès récemment de Théodorin Obiang Nguema.
On a parlé de liens de ces ONG avec le milliardaire américain George Soros.
Oui, alors ça aussi, à nouveau, j'ai du mal à comprendre parce que George Soros, avec Open Society, est quelqu'un qui est très investi pour faire avancer la démocratie, les droits de l'homme, la transparence. Bon, très bien, il est milliardaire. Et alors, j'ai toujours été surpris par ces arguments parce qu'ils ne vont pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que si, effectivement, George Soros était le bras armé d'un intérêts privés, ce qui est possible, on peut l'imaginer. Mais alors, quels sont ces intérêts privés? Qui est derrière George Soros pour faire avancer ses intérêts en Afrique? Moi, j'ai toujours pas trouvé.
Alors, ce que vous racontez dans cette BD, c'est que plus l'enquête judiciaire avance, plus certains témoins sont menacés. Il y a même un incendie meurtrier, écrivez-vous.
Oui, tout à fait. Alors, il faut rendre hommage aux partis civils. Benjamin Tungamani, Bruno Sebi, Grégory Mouinsa, qui se sont constitués partis civils pour faire avancer cette procédure. Et certains ont subi des menaces terribles. C'est notamment le cas de Benjamin Tungamani, qui a été menacé au téléphone. Ce qui est assez amusant, enfin, qui est assez cocasse, disons, c'est que au bout d'un moment, il en avait tellement marre qu'il est allé au commissariat de police de son quartier pour déposer une main courante et dire qu'il était menacé régulièrement au téléphone. Et l'une des personnes qui l'appelait pour le menacer de mort, eh bien, appelle alors qu'il est au commissariat. Et donc, la police enregistre le PV avec ce commissariat. Après, il y a Bruno Sebi, qui est mort dans un incendie au Congo-Brazzaville. Ses deux filles et sa femme aussi sont mortes dans l'incendie. William Bourdon a lui aussi fait l'objet de menaces répétées, récurrentes. Évidemment, les enjeux sont très importants. Les enjeux financiers et diplomatiques sont importants.
Vous racontez comment le parquet de Paris a mis des bâtons dans les roues des plaignants pendant les présidences Chirac et Sarkozy pour éviter que les plaintes ne prospèrent. Peut-on en dire autant sous la présidence Hollande?
Alors non, tout à fait. Ça a été une différence notable de ce point de vue-là. C'est que effectivement, sous Sarkozy ou sous Chirac, eh bien, il y a eu énormément d'efforts du parquet pour étouffer l'affaire. Alors que sous Hollande, les partis civils ont noté qu'il n'y avait pas eu d'intervention, en tout cas, contre les enquêtes qui ont été engagées. Le volet congolais de l'enquête sur les biens mal acquis est bientôt terminé, celui sur le Gabon également, donc on devrait logiquement avoir des procès dès l'année prochaine, j'imagine.
J'ai pas vu citer Emmanuel Macron dans votre livre, pas de dessin de lui, pas de citation de son nom non plus.
Bien écoutez, c'est peut-être que l'histoire nous permettra de corriger ce manquement, mais pour l'instant, disons qu'il n'y avait rien à raconter, sauf à dire que la justice suivait son cours. Finalement, comme personnage de cette histoire, il n'avait pas de raison de le faire apparaître pour l'instant.
Alors en octobre 2017, c'est la victoire pour ces ONG, puisque Théodorin Obiang Nguema, le fils du président équato-guinéen, est condamné à 3 ans de prison avec sursis par un tribunal français pour blanchiment de biens sociaux et recel de détournement de fonds publics. Et vous écrivez que plus que Théodorin Obiang Nguema, c'est tout un système de corruption qui est condamné.
Oui, parce que la décision de la présidente du tribunal est absolument extraordinaire à lire. Parce qu'elle ne se contente pas de dénoncer Théodorin Obiang Nguema, elle dénonce l'ensemble des intermédiaires qui ont participé à ces détournements. Et ce sont de grands intermédiaires français. C'est la Société Générale. C'est la Banque de France. La Banque de France a laissé transiter par ses comptes plus de 100 millions de dollars qui ont été détournés du trésor public équato-guinéen. Elle met en cause également les responsables politiques français. Elle explique que Robert Bourgie est venu dans son bureau, dans le cadre de l'instruction, est venu expliquer qu'il avait remis une manette d'$1 million à Dominique de Villepin pour que le président de la Guinée équatoriale puisse avoir rendez-vous avec Jacques Chirac et que ce rendez-vous a bien eu lieu. Donc tout cela était parfaitement connu des autorités françaises et cela a pu perdurer parce qu'il y a énormément de financement politique.
Est-ce qu'en fait les chefs d'État pétroliers du Golfe de Guinée ne sont pas plus poursuivis parce qu'ils ont commis peut-être l'imprudence de placer leur fortune en France, un pays où il y a des juges d'instruction qui travaillent, et pas aux États-Unis ou en Grande-Bretagne où peut-être les juges n'ont pas cette même combativité?
Il y a deux choses.
Ou en Suisse?
Oui, alors aux États-Unis, il faut voir que le fils de Théodoro Obiang Nguema a été poursuivi par la justice américaine, qu'il avait acheté une villa de $35 millions à Malibu, qu'elle a été saisie par la justice américaine. Ça, c'est un premier point. Il faut voir qu'au Canada, des enquêtes ont été ouvertes contre la famille Bongo, contre la famille Sassou. Il faut voir qu'en Suisse, des poursuites aussi ont été engagées pour restituer des avoirs détournés. Il faut voir qu'en Espagne, aujourd'hui, la famille Nguema est également poursuivie pour des biens mal acquis en Espagne. Donc, je ne sais pas, aujourd'hui, il reste probablement encore quelques paradis fiscaux où on doit pouvoir dissimuler son patrimoine sans trop de crainte. Mais il est aujourd'hui de plus en plus difficile d'afficher ostensiblement un train de vie complètement délirant, qui est en tout cas sans rapport avec avec votre niveau de vie officiel.
Mais tout de même, la France n'est-elle pas le seul pays où le délit de détournement public à l'étranger existe ?
À ma connaissance, quand on prend le cas du Canada, ils ont ouvert des enquêtes pour recel de détournement de fonds publics. L'Espagne, c'est la même chose. Donc vous vous demandez d'où vient tout cet argent, surtout quand vous connaissez les conditions économiques et sociales qui prévalent dans ces pays. La vie n'est pas rose tous les jours au Gabon ou au Congo. Et pourtant, ce sont des pays qui pompent du pétrole depuis plus de 50 ans. Où est passé l'argent ?
Xavier Harel, merci.